A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, ils étaient attendus, ils ont répondu présents. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont décroché l'or en danse sur glace 4 ans après l'argent à Pyeongchang. Nous débuterons ce podcast en revenant sur cette formidable performance avec notre consultant Alban Préaubert. Puis nous évoquerons Tesla 2, la freestyleuse médaillée d'argent sur le Big Air peut aller chercher une deuxième médaille dans l'épreuve du slopestyle. Elle s'est qualifiée pour la finale. Ça n'a pas été si simple pour la skieuse de la Plagne. On analysera tout ça avec notre consultant Robin Lijon. Et enfin, il y a 12 ans, jour pour jour, le 14 février 2010, Jason Lamy-Chappuis devenait champion olympique de combiné nordique à Vancouver. Nous reviendrons sur cette journée avec lui et ceux qui étaient présents sur place pour commenter son passage. Notre journaliste Guillaume Di Grazia et notre consultant Nicolas Jean-Pro. Un beau programme en perspective. Je suis Adrien Yo et pour m'accompagner aujourd'hui, Raphaël Brosse et Simon Farvac sont à mes côtés. Salut à tous.
Salut Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. Il ne leur manquait que l'or olympique. Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis avaient tout gagné jusqu'ici, sauf ce précieux métal. Il y a 4 ans, ils avaient échoué à la deuxième place, mais cette fois-ci, personne ne pouvait les priver de ce titre. Ils étaient tout simplement les meilleurs. Pour évoquer cette consécration, nous accueillons notre consultant Alban Préaubert. Salut Alban, que d'émotions nous ont procuré Guillaume et Gabriela cette nuit.
Bonjour Adrien, on a vraiment vibré, c'était magnifique, c'était attendu, c'est vrai. Mais voilà, le sport, hein, on le sait, c'est compliqué, donc il faut concrétiser. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été magiques sur la rythme dance il y a 2 jours, magiques à nouveau sur ce programme libre. Et ils l'ont emporté, c'est plus que mérité. Voilà, ils sont inégalables. C'était le dernier titre qui leur manquait. Évidemment, toute autre médaille que l'or aurait été une énorme déception pour Gabriela et Guillaume. Ils ont été au niveau et bravo à eux.
On a senti qu'ils n'ont pas eu cette pression qui aurait pu les inhiber parce qu'ils étaient les grandissimes favoris. On sait que parfois, ça peut te retomber dessus. Il y a la pression des jeux, etc. Eux, on a l'impression que ça leur a glissé dessus et que voilà, c'était leur destinée de décrocher ce titre.
Ouais, c'était écrit, c'est vrai. C'était écrit qu'ils seraient champions olympiques. On y a cru il y a 4 ans. C'est vrai que voilà, ils sortaient de, ils enchaînaient les records du monde déjà il y a 4 ans et on y a cru beaucoup. Mais il y a 4 ans, il y a face à eux, il y avait quand même des légendes de la danse sur glace, Virtu et moi, hein, qui avaient fait leur grand retour. Là, cette fois-ci, ils étaient vraiment intouchables. Hein. C'est vrai que quand on les compare à leurs concurrents, Sinitsina Katsalapov, les Russes ou Hubble de Nohu, les Américains. Ils sont au-dessus, ils patinent dans une autre dimension, ils volent sur la glace, tous leurs gestes sont millimétrés et c'était tellement maîtrisé. Alors j'ai tremblé, je me suis rongé tous les ongles de mes mains, mais il y a une telle facilité que c'est vrai qu'on se demande vraiment comment ils auraient pu faire une erreur. Ils ne l'ont pas fait, heureusement. Et en tout cas, c'est plus que mérité ce titre, encore une fois, avec tous les efforts réalisés depuis des années. D'abord avec Catherine Papadakis, la maman de Gabriela à Clermont-Ferrand, puis à Lyon, puis à Montréal. Des années d'entraînement très, très dur. Tout ça, c'est encore une fois plus que mérité.
Raphaël ?
Oui, bah écoutez, je ne regrette pas de m'être levé aux aurores cette nuit pour suivre cette danse libre. C'était effectivement très très beau et ça valait le coup. Et moi surtout, j'ai beaucoup pensé aux derniers Jeux Olympiques. Alors il y a eu 2018 bien sûr avec cette robe qui s'était ouverte et qui avait écouté le titre en tout cas à Papadakis et Cizeron. Mais je me souviens aussi de 2014 avec Nathalie Péchala et Fabien Bourza qui ont échoué à la 4e place. Ouais. Ça peut rester en travers de la gorge et on peut même remonter jusqu'à 2006 avec Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder qui avaient eux aussi échoué à la 4e place. Donc cette danse sur glace, elle a souvent été cruelle avec la France, avec les Français lors de ces derniers Jeux Olympiques. Et là, c'était vraiment la consécration, ça y est, ils étaient les meilleurs, ils ont été récompensés à leur juste valeur. C'était quand même un beau concours, ils étaient au-dessus des autres, mais il y a quand même eu de très beaux passages. On parlait des Russes tout à l'heure, c'était vraiment un passage très émouvant également. Donc, c'est vraiment une consécration. Et moi, j'avais une petite question. Également pour Alban, on les a assez peu vus sur le circuit ces dernières années, nos deux Français, pas à cause de la crise bien évidemment, mais voilà, ils ont aussi décidé de faire l'impasse sur certaines compétitions. Est-ce que finalement c'était pas un mal pour un bien, ils ont profité pour vraiment beaucoup s'entraîner, faire le point?
Oui, alors c'est vrai que on avait un petit peu peur effectivement de les voir autant absents ces derniers temps. Il y a eu 20 mois quand même sans compétition à l'issue, après leur programme des championnats d'Europe où ils s'étaient fait battre pour la première fois depuis les Jeux Olympiques par les Russes, Sinitina Katsalapov. C'était une vraie remise en question pour eux. Ils ont travaillé dur pour justement reprendre l'ascendant, reprendre le leadership qu'ils avaient avant cette défaite. Ils ont réussi à creuser à nouveau l'écart. Alors, c'est vrai que face à eux, il n'y avait pas n'importe qui quand même sur cette compétition. Ce n'était vraiment pas une victoire au rabais, loin de là. Sinitina Katsalapov, qui était en difficulté un peu sur l'épreuve par équipe, ils ont cette fois-ci patiné à leur meilleur niveau sur cette compétition individuelle. Hubble Donohue et Chuck Bates, les Américains derrière, sont également de très féroces compétiteurs avec des très beaux programmes cette année. C'est même frustrant de se dire que Chuck Bates, avec leur programme sur Daft Punk cette année, c'était vraiment un super programme. Et c'est un programme qui ne va pas chercher de médaille olympique. Donc voilà, encore une fois, le niveau était extrêmement relevé. Il a fallu aller scorer des points, hein, pour remporter cette médaille d'or. Record du monde, un nouveau record du monde pour Gabriela Guillaume. Alors pas sur le programme libre, mais sur le cumul grâce au très très gros score effectué sur la rhythm dance. Donc voilà, c'est vrai que cette absence, c'était pas pour rien. Encore une fois, ils ont mûri, réfléchi longuement au thème de ce programme olympique, à la musique qu'il fallait choisir, à la chorégraphie qu'il fallait interpréter. Et tout ça, ça porte ses fruits aujourd'hui. Encore une fois, bravo à eux, bravo à tout leur entourage aussi, toute leur équipe à Montréal, hein. C'est vraiment une académie incroyable, l'académie créée par Marie-France Dubreuil, Patrice Ozon et surtout par Romain Hagenauer, hein, leur entraîneur lorsqu'il était à Lyon avec Muriel Boucher-Zazoui. Donc voilà, il y a un travail hors norme qui est effectué dans cette académie. C'est sur les 23 couples présents sur cette Olympiade, 11 venaient de Montréal. Encore une fois, Gabriel et Guillaume, ils sont copiés. Tout le monde a envie d'aller dans le même centre qu'eux pour faire part comme eux, mais personne n'arrive à les égaler.
Lors de cette absence qu'on vient d'évoquer, ils se sont aussi réinventés. Est-ce que tu penses, Alban, que c'était nécessaire ou pas? Parce que ça peut paraître assez impressionnant d'être déjà au sommet ou presque, d'être déjà favori et de prendre le risque de partir sur un programme, un style de danse assez différent de ce qui a marché précédemment. Tu penses que ça a été décisif?
Je pense que c'était effectivement essentiel et c'est peut-être ça qui leur a coûté le titre européen, qui finalement sans grande conséquence, mais le titre européen qu'ils avaient perdu au détriment de Sinitina Katsalapov. Parce que ça fait des années qu'ils nous font rêver avec leur programme, leur style si particulier à Papadakis Cizeron. Alors nous, qui les connaissons très bien, on sait à quel point ils ont une palette qui est très large, ils sont capables de tout interpréter, on sait qu'ils peuvent tout danser. Mais c'est vrai que leur choix de programme libre, notamment, était souvent un peu dans la même mouvance, très romantique. Et cette année, ils sont venus avec des choix quand même différents, même si ce tango, il y a une part d'émotion qui est très forte, hein. Mais sur la rhythm dance, avec le walking, ils sont allés sur des thèmes beaucoup plus contemporains, beaucoup plus urbains. C'était aussi ça qui était demandé par le règlement, évidemment, mais ils sont vraiment allés jusqu'au bout de la démarche pour patiner sur du hip-hop, sur ce style, le walking. Et je pense que ça aussi... redorer, même s'il n'y avait pas besoin de redorer leur blason, hein, au niveau du jury, mais ça a encore démontré une nouvelle fois l'ensemble de leur talent et du coup, ça a encore appuyé davantage leur domination, je pense.
Ça va peut-être donner des idées aux autres, hein. On parle souvent du fait que Gabriela et Guillaume sont un peu des précurseurs et que derrière les autres couples, les copient. Ça peut, j'imagine, être le cas. Il va falloir qu'ils continuent à innover pour rester au top. Moi, j'ai une question sur qu'est-ce qui fait en fait que Gabriela et Guillaume sont meilleurs que les autres, tout simplement. Quand on les voit, c'est leur technique, c'est leur chorégraphie, c'est un ensemble de tout ça. Toi qui as l'œil d'expert, explique-nous ce qui fait qu'ils sont largement au-dessus des autres.
Alors la technique, c'est certain, elle est très très bonne évidemment chez Gabriela et Guillaume. Chaque élément technique est bonifié par ce qu'on appelle les GOE, donc grade d'exécution à plus 4 ou plus 5 par le jury. Ça veut dire que c'est parfait, on ne peut vraiment rien leur reprocher sur l'exécution technique de chacun de leurs éléments. À chaque fois, c'est en quart, à chaque fois, c'est jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, des pointes de pied. Tout est vraiment hyper précis au niveau technique. Mais surtout, ce qui est différenciant chez eux, c'est cette alchimie qui se dégage de leur danse. On a vraiment l'impression qu'ils font qu'un. Ça fait 17 ans qu'ils patinent ensemble. C'est exceptionnel. Généralement, on sait qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent pour aller vers des... on essaye un peu de faire le best-of en général, en prenant le meilleur partenaire et la meilleure partenaire dans une nation pour en faire un couple phare. C'est un peu le cas avec Gabriela et Guillaume, hein, les deux sont extraordinaires, mais surtout ils se sont trouvés dès leur plus jeune âge, dès le début, et ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble, donc du coup tous les automatismes sont là. Et puis il y a une complicité qui est incroyable aussi hors piste entre Gabriela et Guillaume, et ça se ressent aussi sur la glace. Et voilà, ils sont vraiment, vraiment en fusion. Et je pense que c'est ça aussi qui les différencie de tous les autres couples.
Impressionnant, en tout cas, de voir ce beau couple, hein, on peut le dire. Hein, on a tous rêvé en les voyant cette nuit patiner. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour la rhythm dance, si je peux me permettre. J'ai bien aimé ce côté très moderne, très contemporain, avec des gestes très saccadés, etc. Cette nuit, on était plus sur du classique, si on peut dire. Mais bon, voilà. Bravo, bravo encore à eux. Ne pas parler du sujet également du jour. Il y a un deuxième sujet qui concerne la jeune Russe, Kamila Valieva, puisqu'il y a eu des avancées dans son cas. On rappelle, hein, elle a été testée positive au mois de décembre. Qu'en est-il, Alban ? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le fait qu'elle soit autorisée à disputer la suite de la compétition, et notamment l'épreuve individuelle, hein, soit une bonne chose ?
Non, pour moi, c'est une journée noire pour la lutte contre le dopage. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à comprendre cette décision du tribunal arbitral du sport. Alors en plus il y a très peu d'informations, très peu de transparence de leur part, hein, puisque je crois qu'à l'issue de la conférence de presse ils n'ont pas souhaité répondre aux questions des journalistes, ce qui s'explique en partie par le dossier un petit peu confidentiel, comme Kamila Valieva est jeune et mineure, moins de 16 ans, et donc protégée, du coup on n'a pas accès à toutes les informations du dossier, mais c'est très gênant. Pour moi, à partir du moment où il y a un test qui est positif, et ça a été le cas le 25 décembre, elle a été testée positive à un produit interdit. Et à partir de là, elle doit être sanctionnée, elle doit être interdite de compétition. Pour moi, il n'y a vraiment pas de débat. C'est évidemment un dossier très compliqué. Beaucoup attaquent l'entourage de Kamila Valieva. Va y avoir des enquêtes, évidemment, pour voir les responsabilités. Qui est responsable ? Est-ce que c'est juste de la négligence de la part de Kamila Valieva ? Est-ce qu'il y a un système plus institutionnalisé ? Moi, il est trop tôt, je me permettrai pas de juger les méthodes d'entraînement de toutes Béritzées, même si on sait qu'elles sont parfois controversées. Mais rien ne démontre aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas les éléments en main pour démontrer que toutes les athlètes de toutes Béritzées sont dopées. Hein, et c'est important à le savoir, puisqu'il y en aura trois de très très bon niveau. Trois des favorites sont chez toutes Béritzées dans cette quête du titre olympique. Mais ce qui est horrible, c'est de savoir qu'il y a eu un contrôle antidopage et qu'il ne va pas être sanctionné. Pour l'instant,
c'est pas dit encore. On l'autorise à courir pour ne pas hypothéquer et que ça lui porte un préjudice trop important par la suite. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas jugé par la suite.
Non, d'ailleurs, l'ISU a pris les devants, hein, puisqu'ils autoriseront 25 patineuses à se qualifier au programme libre. On sait que normalement, c'est les 24 des 30 patineuses qui auront le droit de patiner sur le programme libre. Donc, on laisse une place supplémentaire. On sait aussi que si Kamila Valieva est sur le podium olympique, il n'y aura pas de remise des récompenses à Pékin. C'est extrêmement triste aussi pour les compétitrices, hein, puisqu'elles ne pourront pas vivre leur rêve olympique jusqu'au bout. Le podium sera forcément entaché jusqu'au bout. Et du coup, c'est très dommage qu'on n'ait pas eu de décision plus rapide. Après, le dossier est extrêmement complexe, donc on peut le comprendre. Mais encore une fois, quand il y a un contrôle antidopage qui est positif, il faut qu'il soit pénalisé. Il semblerait que ce soit le cas, ce test positif. Donc, Donc, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas une jurisprudence, parce que là, ça veut dire quoi ne pas l'interdire de participer sous prétexte qu'elle a moins de 16 ans. Ça veut dire qu'on a le droit de se doper jusqu'à l'âge de 16 ans pour progresser le plus vite possible, pour être le plus forte possible, le plus tôt possible, et que seulement à partir de 16 ans, il faut faire attention. Ce n'est pas un message qui est entendable, je pense, par l'ensemble des patineurs, l'ensemble des observateurs. Donc, voilà, j'espère qu'on va avoir une grande transparence et des décisions plus justes sportivement qui seront prises dans les jours, si possible à venir, en tout cas dans les semaines à venir.
Raph, tu veux réagir ?
Oui, dans les jours, dans les semaines, peut-être même dans les mois à venir. Hein, on ne connaît pas encore l'étendue du dossier. Non, il a raison, Alban a raison, c'est une journée noire. Alors pour le patinage, dans son ensemble, et pour la lutte contre le dopage aussi, et c'est un concours qui va être assez hallucinant à suivre, puisque en fait, si on se dit qu'il va y avoir un podium, il va y avoir un résultat à l'arrivée, quoi qu'il arrive. Après le programme libre, il y aura forcément un classement, et ce classement, peut-être qu'il ne sera que provisoire. Peut-être que la médaille d'or, donc elle ne recevra pas évidemment sur le podium si jamais Kamila Veyeva venait à gagner, ne sera que provisoire, que dans quelques mois, ce titre reviendra à la patineuse qui aura été deuxième. C'est très, très difficile éthiquement même de se poser la question, de savoir si c'est vraiment bien de faire ça. Et moi je m'interroge beaucoup là-dessus, et je me dis que alors j'ai regardé notamment au niveau des médias russes et de l'opinion publique russe qui fait vraiment bloc autour de son athlète, ça c'est régulier, c'est récurrent chez les Russes, mais eux finalement si Valieva avait été interdit de participer à ce concours, ça n'aurait pas remis en cause leur chance de victoire, puisque derrière ils ont également deux autres patineuses, Shcherbakova et Trusova, qui peuvent également jouer la gagne. Donc eux aussi ne sont pas forcément gagnants dans cette histoire, et ça va entacher encore leur image. On sait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas postuler et défendre les couleurs de la Russie, mais celles du comité olympique russe. Donc, tout ça fait qu'il n'y a vraiment aucun gagnant dans cette histoire.
Ouais, c'est vraiment dramatique. C'est une histoire vraiment dramatique pour le patinage artistique, évidemment, mais surtout pour les Jeux olympiques. C'est une très, très sale histoire. Voilà, on espère qu'on va sortir par le haut, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment, parce que quoi qu'il arrive, la compétition effectivement sera entachée par cette ombre jusqu'au bout. Donc on a quand même envie de voir ce qui va se passer, de voir les performances des autres patineuses que Valieva, parce que elle pour l'instant voilà, il y aura une très très belle compétition en dehors de cette affaire Valieva, quoi qu'il arrive, hein, avec des très grandes patineuses, Sakamoto la japonaise, Loena Hendricks la belge, qu'on a adoré voir au championnat d'Europe et sur les grands prix, les américaines. Donc il y aura du spectacle quoi qu'il arrive, mais c'est dommage que ce spectacle il soit pas que sur la glace. Au moins voilà, on danse sur glace, c'était incontestable, on a vécu un moment délicieux sur la glace et uniquement sur la glace, et ça c'était le principal.
C'est vrai, c'est bien triste. Après voilà, on reste prudent, parce que c'est vrai que ça implique une jeune athlète, elle n'a que 15 ans, une mineure, c'est encore plus triste finalement, parce que on ne sait pas si elle est derrière la pauvre victime finalement de tout ça. C'est très difficile. Donc écoutez, on suit l'affaire, on reste prudent, et puis on verra bien comment se déroulera. Et tu le disais, Alban, il y a quand même une belle compétition à suivre, et on la suivra avec toi aux commentaires évidemment à partir de mardi 11h, tu m'as dit, hein.
C'est bien ça, mardi 11h.
On passe aux chiffres du jour, messieurs. Le chiffre du jour, c'est le chiffre 5. C'est Quentin Fillon-Maillet qui est à l'honneur pour ce chiffre. Car s'il venait à décrocher une médaille en relais mardi, il porterait son total à 5 breloques dans une même édition des Jeux. Et ça, Simon, c'est un record qui date des années 20.
Effectivement. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, il a beaucoup d'opportunités, Quentin Fillon-Maillet, parce qu'en biathlon, au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de compétitions. Par exemple, le relais mixte, il est entré aux Jeux Olympiques en 2014. Donc, des occasions, ce n'est pas ce qui manque, mais faut-il encore les saisir ? Il les saisit avec brio depuis le début de ces Jeux Olympiques. Et les Français feront encore partie des favoris pour le relais masculin demain. Un relais qui a été avancé à 14h30, heure chinoise, donc 7h30 pour nous, en raison des conditions atmosphériques, ce qui va certainement faire très froid. Donc, pour éviter d'avoir des températures en dessous des moins 15 degrés, ce relais a été avancé de quelques minutes. La composition des Français a été divulguée. Quentin Fillon-Maillet terminera ce relais Donc, il n'aura pas toutes les cartes en main pour une éventuelle cinquième médaille et un éventuel troisième titre, mais il aura au moins la possibilité d'influer jusqu'au bout sur le résultat, si tant est qu'il soit en bonne position au moment où il prend le relais. En face, les Norvégiens, qui feront également partie des favoris, évidemment, n'ont pas choisi Johannes Bø en dernier relayeur. Ce sera Vetle Christiansen, qui est un redoutable sprinter, qui pourrait donc être face à Quentin Fillon-Maillet en fin de course ce mardi, avec probablement une médaille en jeu. On l'espère, en tout cas, nous, en tant que supporters français, et même pour le spectacle, Norvégiens et Français, Bø et Fillon-Maillet dominent les compétitions depuis le début. Le duel pourrait bien se poursuivre.
On suivra ça avec attention, hein, les biathlètes français qui ont déjà 5 breloques. Hein. Ils peuvent égaler, voire même dépasser le record de 6 médailles qui avait été atteint à Vancouver, si je ne dis pas de bêtises. 6 médailles à Vancouver. Si on arrivait à atteindre ce chiffre, voire le dépasser, là, on pourrait dire merci, un grand, grand merci, un grand coup de chapeau au biathlon tricolore. Merci Simon. On va enchaîner avec le slopestyle et on va évoquer Tess le 2. Avec notre consultant Robin Lijon. Va-t-elle aller chercher une deuxième médaille après l'argent en Big Air ? Tess le 2 est en tout cas en lice en finale du slopestyle la nuit prochaine. La Plagnarde a pris la 9e place des qualifications lundi. Pour évoquer tout ça, on accueille notre consultant Robin Lijon. Salut Robin. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Tess, la 9e place des qualifs, ça ne lui ressemble pas, ça ?
Non, ça ne lui ressemble pas. C'est sûr qu'on l'attendait un petit peu plus haut dans le classement pour ces deux manches de qualification. Après, le travail est fait, elle est 9e, elle est dans le top 12. Elle a sa place et son dossard pour la finale. Mais c'est vrai que quand on voit le haut du classement des qualifications avec Sildarou, Kili et Gou, on pouvait l'imaginer au milieu et elle est seulement 9e.
Oui, en plus avec un score assez éloigné quand même. Kildaru, tu disais 86-15, Johan Kili 86, Hélène Gou, qui est la fameuse chinoise qui l'a privée du titre sur le Big Air, elle est à 79-38 et elle n'est qu'à 68. C'est un score assez bas. Alors, comment ça s'explique ? Elle a voulu assurer sur un deuxième run ?
Alors, ça s'explique assez facilement. En slopestyle, les juges aiment la propreté, qu'il n'y ait aucune faute, que ce soit jamais brouillon. Et dans le cas de Tess le 2, elle a fait un bon run avec des bons tricks de haut en bas. Mais sur la première section de rail, on la voit sortir du tube où elle est un petit peu courte et ça se voit, elle marque un peu l'appui. Et sur le second rail, elle tricks pas vraiment. Donc voilà, là, ça la pénalise. Et je pense que c'est là où elle perd 18 points quasiment sur Kelly Sildarou, qui, elle, remporte les qualifications avec un run déjà plus solide et puis surtout avec aucune faute.
Mmh. Raph, toi qui as suivi aussi Tess, qu'est-ce que tu vois ?
Bah moi, j'ai un regard très, très novice sur le slopestyle et le ski freestyle en général. Non, moi, j'ai été forcément un peu inquiet après ce premier run raté avec ces deux chutes, surtout la deuxième. Bon, heureusement, elle ne s'est pas blessée visiblement. Ça, c'était la première bonne nouvelle. Ensuite, on nous a quand même rassuré avec le deuxième run. Et je voulais savoir, par rapport à ce que tu disais, Robin, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle se dit qu'il faut vraiment gérer, il faut assurer quelques figures comme il faut. Qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là, selon toi, avant de s'élancer pour deuxième run ?
Alors, ce qui se passe dans sa tête, je ne sais pas exactement. Par contre, la stratégie, c'est sûr qu'elle a dû la revoir. Et je compare encore avec, par exemple, une Kelly Sildarou ou une Johanne Kili qui ont réussi leur première run. Ce n'était pas le cas de Tess le 2, donc elle a dû assurer un second run. Elle n'a pas skié à 110% comme elle aurait aimé le faire, je pense. Mm-hmm. Elle a skié un peu en dessous de son niveau maximum et c'est pour ça qu'évidemment elle score pas très haut, mais c'est sûr qu'il y a de la pression. On loupe son premier run, il y a de la pression, il faut absolument plaquer le second et il faut plaquer quelque chose d'assez correct justement pour arriver à taper le cut des 12, quoi.
Il y a la pression de la qualif, mais est-ce qu'il y a aussi une sorte d'appréhension après une petite chute? Ou c'est le quotidien des skieurs freestyle, en slopestyle et autres. Ce genre de chute, ça ne peut pas venir semer le doute dans son esprit ?
Alors, ça ne met pas en confiance. Ça, c'est certain. Après, la chute, elle est fréquente en freestyle, que ce soit en Big Air, en slopestyle, en halfpipe ou même en snowboard. C'est quelque chose de très fréquent. Et je dirais que les athlètes ont l'habitude, mais c'est sûr que c'est jamais agréable et ça ne met pas du tout en confiance de tomber et de griller une chance, quoi.
pour la suite, on a envie de se projeter sur la finale. Tu disais, il en reste 12. Nous, forcément, on est focalisé sur Elingu parce que c'est elle qui l'a privé du titre qui lui était quasiment acquis. On n'arrêtait pas de dire ça avant de s'élancer. Est-ce qu'on peut s'attendre à une bataille féroce? Est-ce que, on rappelle, hein, Tess, elle a gagné les X Games en slopestyle au mois de janvier, donc elle est quand même normalement aussi ultra favorite. Ou ça peut avoir troublé un peu son esprit, ce Big Air?
Je pense qu'elle va être revancharde, et je l'espère. Et je pense qu'elle va avoir les crocs pour aller la manger, la jeune chinoise. Et pour revenir à ce que tu as dit sur les X-Games, Elingu, par exemple, elle n'a pas participé aux X-Games. Oui. Elle a voulu se protéger de la pandémie, du Covid, et pas prendre aucun risque avant les Jeux. Mais si on peut les comparer, pour moi, elles sont au même niveau. Elles poussent toutes les deux le sport. Et oui, il y aura une bataille, c'est certain. C'est certain. D'autant plus qu'en finale, il y a trois runs. Il n'y en a pas que deux comme sur les qualifications. Donc, ça fait que pousser le niveau vers le haut, clairement. Et puis, il y a Sildarou aussi qui est dans le lot. Ce ne sera pas une bataille avec seulement deux filles. Il y en aura trois, c'est certain. Et puis, il y a des outsiders aussi derrière qui ont leur épingle à tirer.
Et justement, j'avais une question. Alors, normalement, comme elle a terminé 9e des qualifs, Tess, ça veut dire qu'elle partira relativement tôt au moment de la finale, lors de chaque run?
Du coup, l'ordre est inversé. La 12e part en première et la première des qualifications part en dernière.
Question que je posais par rapport à ça, ses concurrents directs partiront à la toute fin. Est-ce que ça peut jouer aussi mentalement le fait que ses adversaires sauront quelle note elle a fait avant?
Non, pas vraiment. Ça ne change pas. Ça peut changer éventuellement en troisième run parce que, évidemment, les adversaires voient avant de s'élancer, elles vont voir le run de Tess. Après c'est un sport individuel, on passe les uns après les autres, donc dans tous les cas il faut sortir un run et voilà, ça peut presque leur mettre la pression, j'ai envie de dire. Ouais. Si elles voient Tess qui plaque un énorme run et elles sentent la victoire un peu s'échapper, peut-être ça peut leur mettre la pression, peut-être aussi ça peut les booster, mais je suis pas sûr qu'il y a un réel impact au niveau de la start list.
Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir encore des nouvelles figures qui sortent comme on a pu voir au Big Air? Est-ce que les concurrentes en ont gardé un peu sous le pied pour impressionner les juges lors de cette finale olympique?
Alors, de comparer à ce qu'on a vu ce matin, c'est sûr que les runs vont s'améliorer et qu'on va avoir des nouvelles choses, ça c'est certain, le niveau va monter. Est-ce que le sport va avoir des nouveaux runs et des choses inédites, des premières mondiales? Ça c'est une bonne question, je l'espère très sincèrement, mais il faudra se lever cette nuit pour le voir.
Écoute, on suivra ça avec attention. Il faut mettre son réveil, c'est à 2h30. On t'écoutera sur les antennes d'Eurosport et puis on l'espère, au moins une deuxième médaille pour Tess, si elle peut aller nous chercher l'or. On n'en sera que plus ravis. Merci Robin. Place maintenant à notre dernière partie. Nous allons nous replonger quelques années en arrière pour revivre le titre olympique de Jason Lamichapuis en combiné nordique. C'était un certain 14 février 2010. 14 février 2010, il y a 12 ans, Jason Lamichapuis devenait champion olympique du combiné. Une consécration pour Jazz qui est avec nous aujourd'hui pour revenir sur ce moment fort de sa carrière. Guillaume Desgrazia, qui a commenté l'épreuve à Vancouver en 2010, est à nos côtés également, comme notre consultant Nicolas Jeanpro. Vous étiez tous les deux, messieurs, à Vancouver pour commenter ce moment fort de l'histoire du sport français. Jazz, que reste-t-il 12 ans après cette journée?
Ah, c'est une journée, c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait déjà 12 ans, mais c'est une journée qui m'a transformé, qui a changé ma vie, changé ma carrière sportive. Et je pense que c'est là où j'ai eu le plus d'émotions dans ma carrière de sportif, à mon avis. Ça reste et ça restera toujours gravé en moi. Quoi.
Est-ce qu'on t'en parle encore tous les jours ou presque? Ou est-ce que toi, tu y penses tous les jours ou presque?
Non, pas tous les jours, mais par contre, je croise encore quelques personnes qui reconnaissent mon nom ou mon visage, qui me disent « mais à cause de toi, j'ai cassé mon canapé », quoi, ou « j'étais debout sur le canapé en t'encourageant ». C'est même 12 ans après, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a eu une transmission d'émotions, même à travers le petit écran.
Alors, c'est un secret pour personne, hein. Tu es devenu pilote d'avion. On t'a vu récemment transporter les athlètes français jusqu'à Pékin. J'imagine que quand tu parles et que tu annonces que Jason Lamy-Chappuis est aux commandes de l'avion, et certains papas qui doivent se dire « Ah, lui, ça me dit quelque chose, on vient de voir, on t'en parle comme ça ?»
Ouais, on vient me voir souvent à la fin du vol, surtout sur les vols France ou les vols côté ski, voilà, arc transalpin. À la fin du vol, il y a toujours une ou deux personnes qui vient pour un autographe, un selfie, une photo. Et voilà, c'est des gens qui suivent le ski, qui sont passionnés de sport. Ça fait toujours plaisir.
Guillaume, Nicolas, vous étiez sur place. On a envie de savoir un peu comment c'était, comment l'ambiance est montée, comment voilà les jours qui précèdent, le moment de la course. Dites-nous un peu comment c'était. On sentait ce titre venir. Comment vous étiez vous sur place?
Je peux le laisser parler Nicolas après, mais on l'attendait, on l'espérait, pas forcément ce jour-là. Il y avait déjà eu une belle quatrième place, hein, 4 ans avant à Turin. Mais je crois que Nico, en fait, lui, il l'a vu monter tout petit, parce que ça date pas de ce jour-là, le rendez-vous olympique de Jason Lamy-Chappuis. Il avait parlé de sa carrière de pilote, ce qui impressionne tous les gens qui ont connu Jason avant ses accomplissements, avant sa carrière sportive, avant son brevet de pilote, avant qu'il soit dans un cockpit. C'est la persuasion de son destin. Il avait anticipé toutes ces choses. Tu peux raconter peut-être, Nico, première fois où Jason venait dans le magasin et se mettait en posing, quoi.
Et c'est vrai que donc, mes parents ont un magasin de sport dans le village des Rousses. Enfin, on l'a toujours, d'ailleurs. c'est ce qui nous fait manger. Et Jason, mais tout petit, alors moi j'étais encore sauteur, et lui tout petit, il venait dans le magasin, il se mettait en position d'élan, il faisait des simulations d'impulsion, et il disait, moi quand je serai grand, je voudrais faire comme toi. Alors il a fait bien sûr beaucoup mieux, mais donc, voilà, c'est devenu le grand champion qu'on connaît, mais c'est vrai que le parcours il est énorme. C'est vrai que moi je me souviens des entraînements à l'omnibus sur notre petit tremplin de 25 mètres, où déjà. Il est impressionnant par son aisance, sa qualité technique, sa souplesse, sa fluidité en vol. Et que voilà, et c'est un amoureux du ski de fond. Donc, son destin était tracé. La voie olympique était ouverte. Et c'est vrai que c'était la consécration il y a 12 ans, ce 14 février 2010, qui est bien sûr gravé avec Guillaume dans la cabine. On a des moments...
des moments forts.
Comment on peut dire on peut raconter. Ouais. Moi, ça reste... Jason le sait d'ailleurs, ma plus grosse frustration, parce que je rate mon commentaire, parce que je me trompe de ligne d'arrivée. La veille, on vient repérer le site, on a notre cabine qui est devant l'entrée des couloirs, en fait. Et Jason peut le dire, la ligne à l'entrée des couloirs était vraiment marquée, ce qui n'est pas le cas. Ouais, et Nico me dit, tu fais gaffe, c'est pas là la ligne. Je dis, pas de problème, c'est bon, j'ai vu. Sauf que dans l'emballage, Jason, c'est le seul moment où on l'a en contact visuel quand il rentre dans le stade, en fait. Et là, je ne suis plus l'écran. Je suis la rentrée de Jason. Je le vois passer, je le vois couper. Il est battu. Et là, il y a Nico qui me fait juste un geste comme ça. Et je vois que il n'est pas battu. Lui, il n'arrivait plus à parler. Une fois qu'il a coupé la ligne, Jason passe la ligne. Nico est frustré, pleure. Voilà. Là, je me retrouve tout seul. Je sais qu'en plus, je viens de faire une boulette. Je sais que je vais faire une boulette. Ça passe, mais je sais que je vais... Là, j'ai Alain Métias, qui est le président de la Fédération française, qui est de l'autre côté d'une vitre, une vitre à rabat. J'ouvre le paquet de la poignée de la vitre. Comme ça, je passe le casque de Nico, qui ne servait plus à rien parce qu'il pleurait, à Alain Métias pour essayer de tenir. Parce que moi, j'étais dans l'émotion aussi, quoi. Une fois que tu gueules, il fallait que je me pose. Je ne savais plus ce qui se passait. Comme Jason, quand il saute, là, au bout d'un mètre, il ne sait plus ce qui se passe. Là, je ne savais plus ce qui se passait. Donc, je balance le casque à Métias. Métias met le casque, mais il le met à l'envers. Met le micro derrière. Donc, je lance Métias qui me parle de l'autre côté de la vitre et là, on n'entend rien. Bon, OK, très bien. Je fais signe au président, remettez le machin. Il remet le truc. Je lance Métias. Métias, Alain, qui était à l'époque en campagne pour sa réélection et on le taquinait de pas assez parler anglais. Et je ne sais pas ce qui se passe. Comme c'est Jason qui est aux États-Unis, « Watch a magnifique day for the French équipe !» Enfin, ça part dans du n'importe quoi. Et c'est vraiment pas le moment qu'on… Voilà, c'était de l'improvisation. Je sais que quand on rentre dans la cabine, j'ai noté juste un mot, je mets tabernacle. Parce que je sais que s'il se passe quelque chose, il va falloir se raccrocher à quelque chose, je mets juste tabernacle. Et quand il passe la ligne, il y a trop d'émotions, on les prend et je gueule tabernacle, tabernacle, tabernacle.
Il est champion olympique ! Tabernacle ! Tabernacle ! Il est champion olympique !
Oui, je me souviens qu'on est debout dans la cabine et on se met des grands coups comme des buffles. On se met des...
On se tape dessus, ouais, c'était physique. C'était physique. Le dernier virage, on se tient, on se tire, on se bagarre, on sprint avec lui. Il y a Spillane qui est là. Enfin,
Alors, si on revient un petit peu sur la... ouais. Si on se replonge un peu dans la course, avant ce sprint, on y viendra. Il y a d'abord ce saut qui ne se passe pas forcément comme tu l'imagines, Jez, non ?
Ouais, parce qu'en fait, sur les sauts d'entraînement, quand je rate mon saut, je fais troisième des sauts d'entraînement. Donc, j'étais super régulier. D'ailleurs, c'est ce qui a fait ma force cette saison-là, c'est qu'au tremplin, j'étais super régulier, j'étais présent. Et je ne sais pas, j'arrive en du tremplin. Déjà, les conditions étaient changeantes. Il y avait du vent de face en début de manche. Ça commence à tourner un peu arrière. Et je me souviens de Mino, mon coach, qui attend encore 5-6 secondes de feu vert avant de m'envoyer. Et sur la barre, je commence déjà à cogiter, à me dire, mince, s'il ne m'envoie pas tout de suite, c'est que les conditions, elles ne sont pas bonnes, quoi. Donc, il va falloir être bon, il va falloir faire un saut bien vertical, profiter de s'élever. Et puis, ça ne sera peut-être pas très bon en l'air. Il n'y aurait peut-être pas de soutien en l'air. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un saut correct, pas mes meilleurs sauts. Mais je me retrouve cinquième, un de mes moins bons sauts de tous les entraînements et sauts d'essai. Donc, à ce moment-là, je me dis, purée, ça va être dur, quoi, parce que... Rinnanen, le Finlandais, il avait fait l'écart, il était loin devant. Et je me retrouve avec les meilleurs fondeurs, dans le groupe avec les meilleurs fondeurs. Je me dis, ah, ça, pour la médaille d'or, ça va quand même être chaud. Quoi.
Après ce saut, messieurs qui commentaient, vous dites aussi, ça ne va pas être simple pour aller chercher l'or.
Je crois que, enfin, Nico va le dire, mais quand on y va, on y va pour le podium. On y va pour le podium. Quand on rentre en cabine, on pense au podium, mais on ne pense pas à la médaille d'or.
Ouais. Nico, pareil, ouais.
Je ne sais plus, c'était quoi, 50 secondes, Jez ?
46 secondes.
46 secondes. Jez avait souvent gagné avant les Jeux, mais en partant devant. Donc, c'est vrai que là, podium, on signait clair.
On avait imaginé le scénario parfait. C'est-à-dire, Jez, il part devant, il met une petite fessée aux autres et il gère. C'est comme ça qu'on le voyait gagner, hein, Jason. Pas forcément de la façon où il l'a faite. Après, ce 14 février, il est particulier hein, parce qu'il y a Vincent Gé qui est champion olympique quelques minutes avant. On suit ça avec Nico dans la salle de presse, avec de la chance. Vincent, il part d'Ossard 5, je crois, président des pizzas. Le 8, peut-être, on en parlait. Derrière, ça se manège. Et là, on voit que ça s'inverse. Jason, il n'a pas la chance. Le vent, ça ne vient pas. Il n'aura pas la chance, d'ailleurs, sur le grand tremplin. Sur le grand tremplin, il est massacré comme les meilleurs de la Coupe du Monde. Comme quoi, en fait, c'est ça qui est fabuleux. C'est que tout ce que tu peux imaginer, c'est remis à l'envers et... Il aurait même peut-être pu monter sur la boîte 4 ans avant, hein, avec la 4e place, où là, on était dans un concours de rêve. Il fait le meilleur saut, il part devant, il avait moins de casse, hein, c'est normal, il avait 19 ans, Jason, c'est ça, si je ne dis pas de
bêtises. 19 ans,
ouais. Ouais, 19 ans, premier Jeux Olympiques. Non, ce n'était pas du tout le scénario, c'est pour ça que c'est encore plus haut. Parce qu'en fait, quand il gagnait en coulant, il était chiant, il partait devant. Là, il s'est passé un truc. Là, il s'est passé un truc, il nous a mis du suspense, il a rajouté l'art et la manière.
Toi, Jason, comment tu abordes cette course ? Tu sais que tu pars cinquième, 46 secondes. Quel est ta d'esprit au moment où tu te présentes ?
Moi, je pars clairement pour une médaille. Peu importe la couleur, mais déjà une médaille de bronze, c'était parfait quoi, pour moi. Parce que voilà, vu que je ne partais pas devant, j'avais un peu moins d'infos. Je ne savais pas ce que j'allais pouvoir donner. Par contre, je regarde le biathlon entre le saut et le fond et je me dis, purée, les Français, ils avaient quand même des bons skis. Et je sais que les infos se sont passées, les stades étaient juste l'un à côté de l'autre. Les infos sont passées du biathlon au combiné. Et donc, j'avais plutôt confiance par rapport au ski. Je savais que ça allait bien glisser et qu'on allait avoir du bon matos. Donc, je pars plutôt assez confiant en me disant « je vais être dans un groupe, je me mets à l'abri et puis on verra dans le dernier kilomètre. »
Et là, raconte-nous un petit peu. Il y a ce groupe qui tout le monde se regroupe un peu au bout d'un moment. Et puis voilà, on veut que tu nous racontes un peu ce moment un peu fantastique. Parce que Guillaume nous a raconté vu de la cabine, mais nous, on veut l'explication des skis, vu des skis.
Vu des skis, clairement, ça donne. J'essaie de partir assez fort pour me mettre dans les skis du groupe. Ça se passe plutôt bien. Dans le premier tour, on se retrouve assez regroupés, il me semble. Et fait de course aussi, Rinnanen, à la fin du premier tour, il tombe, perd une quinzaine de secondes. Et là, en fait, on le reprend assez facilement.
Et au bout de quelques kilomètres, on se retrouve un groupe de 7-8 là pour la victoire. Et voilà, là, ça devient une course tactique, quoi. Où est-ce qu'on se place? Si on se place tout à l'arrière du groupe, eh ben, on fait le yo-yo, on se fatigue. Si on se place devant, on prend le vent, on se fatigue aussi. Donc, c'était vraiment un jeu de se placer au bon moment dans le groupe, être autour de la 2-3e place et se mettre à l'abri, garder l'énergie vraiment pour le dernier kilomètre, quoi.
Et dans ce groupe, on ne sait pas encore qu'on va jouer loin. Parce qu'à trop se cacher, chacun voulait se regarder. Il y avait Spillane qui était devant.
Qui s'est débarré.
Ouais, donc.
Dans le dernier kilomètre, Spillane, il part.
Johnny Spillane, l'Américain, qui prend quelques mètres d'avance. Il prend bien 10-15 mètres d'avance quand même. Ouais. Et là, clairement, messieurs, vous dites quoi? Vous dites, bon, on va aller chercher l'argent, mais aller chercher l'or, ça va être compliqué quand même, non?
Non, là, on sait qu'il va chercher l'or. Quand il bascule dans le stade, Jason, il aime la bagarre.
Dans le dernier kilomètre, quand Spillane part.
Ça se regarde.
J'étais pas très bien placé dans le groupe. Je mets du temps à accélérer, à essayer de prendre le lead du groupe pour revenir. Mais à ce moment-là, je me dis, on vise l'argent, quoi. Et ça y est, il est déjà parti, Spillane. Il est trop loin, quoi.
Et à quel moment il y a le switch dans ta tête qui se fait, qui se dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Je peux peut-être aller le chercher. Moi, j'ai revu la course. On le voit pas mal. Spillane.
Le virage, le double virage avant l'entrée dans le stade.
Où Diaz, c'est un fin skieur. Et c'est clairement là où il prend énormément de vitesse. C'est tout en pas tournant. Et on voit qu'il fait un peu la différence. Et après, là, on se dit, mais merde, il n'est pas si loin, Spillane. Ouais. Après ce virage. Donc, c'est avant le stade. Un grand droit.
Dans la descente.
Il prend beaucoup de vitesse.
Parce qu'il y a encore Pitine à sortir. On se rend compte au fur et à mesure des mètres que l'autre candidat, c'est Alessandro Pitine, italien. Et on voit d'ailleurs que vous marquez dans le groupe. Et quand tu fais l'effort là, c'est pour sortir un petit peu Alessandro Pitine. Et puis en sortie du double virage, tu rentres et tu vois que la médaille, elle est là, quoi. Et surtout, on sent que ça pioche. On sent que Spillane, il a fait l'effort, mais qu'il commence à…
Et il se retourne plusieurs fois. On sent qu'il se dit « ça revient ». Et là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe?
Là, dans ma tête, en fait, quand j'arrive dans le stade, j'arrive en deuxième position, je vois Spillane mal skier, piocher, avoir du mal à terminer. Et à un moment, il se retourne, il y a nos deux regards qui se croisent et je vois qu'il est dans le dur. Et là, à ce moment-là, je me dis, purée, c'est possible. C'est possible de le reprendre parce que là, il est vraiment dans le dur. Ça m'a donné une énergie encore plus forte. Je sentais plus mes jambes. Je savais plus ce qui se passait, mais je savais que j'allais le manger, quoi.
Je sais même plus, il est sur la boîte.
Ah, il fait deux.
Ouais, deux, il fait deux. Pitine 3 et il fait deux, quoi. Ouais, d'accord.
Et vraiment, c'est vraiment dans les 50 derniers mètres, quoi, que je le double. C'est vraiment à l'entrée des sapinettes où j'arrive, mais je savais, quoi. Je savais que j'avais plus de vitesse que ça allait être bon, quoi. Donc, j'ai quand même pu profiter. Voilà, les 30 derniers mètres, j'ai pu profiter. Ouais, j'ai quand même jeté le pied à la fin parce que.
Pour la photo.
Exactement. J'imagine après, tu exultes. Comment ça se passe derrière les minutes, les heures qui suivent? Vous, messieurs, vous arrivez à le croiser, Jason ou,
Moi, je me rappelle très bien du moment après. C'était un moment très particulier. Je crois que c'est quelques minutes, là, c'est dizaines de minutes après. Je m'en rappellerai presque toute ma vie. Il y avait une atmosphère. Il y avait vraiment quelque chose dans l'air. Il y avait tout le clan français qui commençait à se regrouper pour attendre, en fait, de voir Jason arriver, parce qu'il y avait d'abord la cérémonie des fleurs avant la cérémonie des médailles. Et Jason n'était pas encore passé aux interviews, donc il y avait toutes les télés, il y avait les confrères, les familles qui commençaient à arriver. Il y avait Annette qui était déjà là, sa maman. Et ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui l'avaient rêvé avec lui, et on l'avait tous vécu ensemble. Et je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas été athlète. Hein. C'est vrai qu'on a des moments de plénitude, des fois, on commente, mais ça n'a rien à voir avec ce que les athlètes peuvent avoir. On avait l'impression d'accomplissement. Et c'est là où on voit que… Parce que ça ne joue à rien. Hein. C'est-à-dire qu'il n'aura plus l'occasion d'être champion olympique, Jason. On ne va pas parler de Sochi, mais si ce n'est pas aujourd'hui, c'était jamais. Et si ce n'était pas ce 14 février 2010, c'était jamais. Et ce moment d'accomplissement collectif, à travers Jason, parce que c'est lui le plus important, c'est sa vie à lui, c'est son histoire à lui, mais on l'a tous partagé, et voilà, on était tous dans cet accomplissement collectif. Il y avait quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si Nico, on était dehors là, le long de la zone mixte, tu t'en rappelles. On avait dû boire un ou deux ponts parce qu'on avait pris de l'avance. mais ouais, c'était vraiment un très très beau moment.
Nico, toi, les émotions. Guillaume disait tout à l'heure que tu étais en pleurs à l'arrivée. Qu'est-ce qui te remonte? Tu imagines de revoir ce petit garçon qui vient dans le magasin, toutes ces images. Qu'est-ce que tu as au fond de toi?
Ouais, non, c'est un peu, je reviens un peu sur ce qu'a dit Guillaume. On n'était pas très nombreux dans le cercle proche à l'arrivée. Voilà, je me souviens de, bien sûr, de la famille de Jazz, des coachs. Ouais. Et après, c'est une émotion assez difficile à exprimer.
Je me posais...
On a toujours du mal à expliquer.
Ouais. Je me suis toujours demandé pourquoi tu pleurais à côté de moi. C'est ton rêve à toi qu'il avait réalisé parce que tu voulais être champion olympique.
Non, pas du tout. Non, c'est que je suis assez émotif et c'est vrai que c'était. Voilà, c'est un truc qu'on pensait avec Jazz, mais là. Là, on le touchait du doigt. Bon, le vivre comme ça de l'intérieur, en plus de commenter, moi qui l'ai vu grandir, c'est vrai que toi, même là, d'en reparler.
On a les larmes aux yeux tous les deux. Enfin, le Jazz, il maîtrise, mais on a les larmes aux yeux depuis tout à l'heure.
Et Jazz, la suite, j'imagine, c'est un tourbillon. Comment ça se passe? Alors, on parle peut-être sur place, mais après même le retour en France, etc. J'imagine, c'est les gens qui arrivent, qui t'accostent, la médaille, etc. C'est du bonheur pur, non?
Ouais, c'est un tourbillon. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'on est quand même dans une bulle au village olympique, on est protégé, on vit notre truc, on reste concentré sur la compète, on ne sait pas ce qui se passe en France, on ne sait pas. Et d'abord, au début, on profite avec nos entraîneurs, le staff, vraiment les premiers à qui on doit cette médaille, et puis la famille proche, les amis qui sont sur place aussi.
La Marseillaise.
La Marseillaise, ça c'était un moment incroyable. Mais d'abord, après la course, il y a déjà un marathon. Les médias, les zones mixtes, les interviews en direct, sur papier. Il y a aussi le contrôle antidopage. Je me souviens être revenu, 20 minutes au village olympique juste pour prendre une douche, me changer, me mettre en habit de cérémonie pour le soir. Et là, on repart pour la cérémonie des médailles. Et c'est juste à ce moment-là, à la cérémonie des médailles, où je commence à pouvoir me poser un quart d'heure pour moi. En plus, on était avec Vincent Jay ensemble, en train de refaire nos courses, en train de profiter ensemble. Et c'est vraiment à ce moment-là où on commence à se poser, à réaliser tout ce qui s'est passé et tout le travail accompli pour arriver à ça. Et la Marseillaise, c'était juste un kiff, quoi.
Le titre, le lendemain, l'équipe, c'était l'or des braves. Il y avait Jason d'un côté, Vincent de l'autre. Là, c'est l'heure olympique. On va donner des petites anecdotes dans l'heure olympique. Moi, j'ai un autre souvenir. Plus privé, je me permets de le raconter sous le contrôle de Jason Lamy-Chapuis. Jason, à l'époque, il n'avait pas vu sa copine depuis 4-5 mois, ouais. Parce qu'elle était partie justement en stage au Canada, ils n'avaient pas pu se voir. Donc Jason arrive au jeu, elle est là-bas, et avant les jeux, on va le voir à l'entraînement avec Nico, comme tous les autres, l'occasion d'associer Sébastien, Maxime, François, les entraîneurs, Étienne, Jérôme, tu as parlé de Mino tout à l'heure. Je lui dis, ça va, ouais, écoute, ça va, regarde, ça allait, il plantait les meilleurs sauts à chaque entraînement, donc effectivement, ça allait. Et Mino, juste le truc, c'est que voilà, y a Marie qui est là, voilà, et je ne la vois pas, tout ça, on ne se voit pas, je ne l'ai pas vu depuis 6 mois, et je lui dis, écoute, pas compliqué, tu es champion olympique demain, on s'arrange pour te trouver une chambre. Et quand il sort à la cérémonie protocolaire, pas pour les médailles, pour les fleurs, il arrive là, on l'attend, il me regarde, il tend le bras, il dit, c'est bon pour la chambre. Ouais, c'est le 14 février, il avait une médaille, il avait sa copine, il avait une chambre pour être tranquille, pour profiter de
le jour de la Saint-Valentin.
Ouais, toutes les équipes du CNOSF, Soria, Anan avait fait le
boulot. J'étais motivé. Hein.
Ça, c'était la petite histoire. C'était la petite histoire.
Génial. Quand tu rentres ensuite, j'imagine, chez toi, tu arrives, passe par Paris, après tu retournes, j'imagine, dans le Jura. Comment ça se passe sur place?
Eh ben, j'arrive à l'aéroport de Genève. Il y avait déjà, 250 personnes qui, qui, qui m'attendait à la sortie des bagages là. Le ski club de Beaudemont avait préparé une petite surprise. Ils étaient tous là. Les gardes de sécurité de l'aéroport de Genève étaient en train de dire « Eh oh, moins de bruit, faites attention.
» On est à Genève quand même.
Mais non, les Beaudemoniers, ils avaient envie de faire du bruit. C'était un bon moment parce qu'on retrouve les gens qu'on a côtoyés depuis tout petit. Et moi, j'ai une image super forte. C'est quand on arrive dans le village. Donc, il y a 3000 personnes qui nous attendent. On était avec Seb, Lacroix. Ils nous attendent pour faire une petite cérémonie. 3000 personnes sur un village de 1500 habitants. Hein. Donc, il n'y avait pas que des Beaudemoniers. Et là, je croise mon grand-père. Et là, mon grand-père, je l'ai rarement vu émotif. Mais là, je sentais que ça lui avait fait quelque chose. Et de voir cette médaille, là, il parlait plus là, et ça m'avait vraiment touché de retrouver cette famille là et de partager ça avec eux. Il y a des moments d'émotion, de connexion avec ses proches qui sont très rares comme ça, quoi.
Des beaux moments. Guillaume, tu te rappelles de ce retour?
Non, j'étais pas là. Nous, on était encore parce qu'on avait encore des épreuves à commenter. On avait le saut qui.
Mais je me dis que tu suivais ça quand même de loin et.
Ouais, on l'a suivi loin parce qu'en plus, voilà, ils parlent de Beaudemont, les Rousses. Il y a un lac hein, entre les deux. Je te conseille d'ailleurs, si tu veux faire un footing, tu veux faire du sport blanc, si tu vas aller patiner l'hiver.
J'y étais en décembre dernier. J'y étais en décembre dernier.
C'est juste un petit paradis, un petit paradis du Nordique. Donc, bien sûr qu'on suivait, c'est la même famille. Hein. Jason, il côtoie Daniel et Annette. Nicolas côtoie Daniel et Annette depuis des années. Tout le monde se côtoie. Moi, c'est ma petite famille à moi d'adoption, hein, de sport, parce qu'ils m'ont adopté. J'y connais rien. Moi, je suis à Montpellier. La première fois que j'ai vu la neige, on n'est pas allé à l'école pendant 3 jours. Je ne sais pas si t'imagines. Mais voilà, c'est. Il y a le cœur du Nordique qui bat dans plein d'endroits, mais ils ont ça en commun. C'est vraiment des passionnés. Il y a de l'humilité, il y a de la transmission aussi. Quand il parle de son grand-père, Nico pourrait parler de son père qui a été champion de France de saut. Le grand-père de Jason aussi a fait des compétitions. C'est une culture qu'on se transmet de père en fils et de père en fille maintenant avec Joséphine Panier. C'est juste à côté. Voilà, là, il y avait Quentin Fillon-Maillet. Ils sont tous derrière les athlètes franc-comtois. Hein. C'est une diaspora, c'est une petite mafia tout ça.
Super, un beau titre qui rend fier le Beaudemont, les Rousses, le Jura. Merci, messieurs, d'avoir témoigné, d'avoir participé à l'Olympique. Et de cette remémorer ce 14 février 2010. Voilà, l'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles tricolores. Salut à tous!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.